Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Academy. Vincent Trémollet de Villers, bonjour.
Bonjour.
Isabelle Schmitz, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie tous les deux de la rédaction des hors-séries du Figaro. Les hors-séries du Figaro, partenaires de Canal Academy, et vous venez nous présenter la dernière livraison des hors-séries consacrée à Versailles. Une livraison, Vincent, exceptionnelle.
Oui. Oui, c'est un numéro exceptionnel à plusieurs titres. D'abord parce qu'il s'attache à raconter et à montrer une des restaurations peut-être les plus spectaculaires de la décennie ou même plus, qui est celle de la Galerie des Glaces, qui était une restauration totale menée sous la houlette et grâce au mécénat de l'entreprise Vinci. Et donc nous avons voulu montrer Versailles à travers le cœur de Versailles, du château, qui est cette galerie. Et pour que les lecteurs puissent en goûter tous les charmes et toutes les beautés, nous avons fait un numéro de 120 pages avec un dépliant assez spectaculaire montrant toute la voûte de Lebrun. Et nous avons ajouté à ce numéro un CD-ROM qui permet de visiter la Galerie des Glaces en trois dimensions avec un luxe de détails qui est inouï. Je pense que celui qui regardera ce CD-ROM verra la voûte ou les détails de la galerie comme les restaurateurs les ont vus sur l'échafaudage.
Donc, cette Galerie des Glaces, après 4 ans de travaux, est inaugurée cette semaine, hein, le 25 juin, très exactement. Et Canal Academy consacre d'ailleurs toute une série d'émissions sur le sujet, avec notamment le centre de recherche du château de Versailles. Alors, Vincent, Isabelle, parlons d'abord de ce mécénat du groupe Vinci. Il s'agit d'un nouveau type de mécénat, un mécénat de compétences. Qu'est-ce qu'un mécénat de compétences?
Voilà, c'est-à-dire que Vinci, pour la restauration de la Galerie des Glaces, a choisi un mécénat total, c'est-à-dire de faire par un certain nombre de corps de métier faisant partie de l'entreprise, que ce soit des filiales ou non, pour restaurer chacune des parties de cette galerie, c'est-à-dire les miroirs, les marbres, les dorures, les peintures, les lustres, le parquet. Et donc, pour redonner aux visiteurs, au bout de 4 ans de travaux très très méticuleux et je pense, d'après ce que disent les spécialistes, nous ramène à ce qu'était la Galerie des Glaces du temps de Louis XIV, va montrer aux visiteurs quelque chose que je pense qu'ils ne pouvaient imaginer. La Galerie des Glaces, dans l'imaginaire des gens, est quelque chose d'un peu sombre, parce que la voûte de Lebrun a été énormément noircie par le temps. Et moi qui l'ai visité là, absolument restaurée et vide, c'est époustouflant. Vraiment, ça va être une redécouverte pour tous ceux qui vont y aller.
Alors, l'idée de préservation du château de Versailles est une idée assez récente parce qu'il faut attendre la fin du 19e siècle pour que l'on pense à considérer le château de Versailles comme un monument artistique.
Voilà. C'est-à-dire que Versailles, après le départ du roi et de la reine en 1789, Versailles a perdu un peu de son utilité et s'est longtemps cherché. Il y a eu des œuvres d'art qu'on a stockées dedans. Certains Napoléons, puis certains monarques de la Restauration ont hésité à s'y installer. On a fait le musée de l'histoire de France quand même. Mais l'idée du Versailles que l'on connaît aujourd'hui n'existe que depuis un siècle, en fait, et grâce au génie d'un personnage qui s'appelle Pierre de Nolhac et qui a vu toutes les ressources de ce monument et comment ce monument pouvait avoir une deuxième vie et n'était pas ce musée finissant et naufragé dont parle Chateaubriand.
Alors, le numéro est dominé par cette restauration, bien évidemment, de la Galerie des Glaces. Il s'agissait de retrouver une unité et jamais dans l'histoire du monument, vous le disiez tout à l'heure, la galerie n'avait été restaurée dans son intégralité. C'est la première fois qu'on conçoit une unité de restauration.
Oui, c'est ça. Et si vous voulez, c'est un numéro qui est sur la Galerie des Glaces, mais on l'a appelé Versailles retrouvé, parce qu'avec cette restauration de la galerie, c'est un couronnement d'un siècle de travaux pour revenir au Versailles originel. Et notre numéro, en traitant de la galerie, nous avons réalisé que nous traitions de l'histoire de Versailles, notamment Philippe Bossan, qui est le spécialiste incontesté de Louis XIV, en racontant 12 journées qui se passent à travers la Galerie des Glaces, a fait 12 journées de l'histoire de Versailles et même 12 journées de l'histoire de France et de l'Europe. C'est assez fascinant de remarquer ça aussi.
Alors, venons-en aux étapes précisément de cette restauration et à la nature de celle-ci.
Donc, il y a eu un travail qui a été fait par étapes, mais de façon aussi coordonnée. C'est-à-dire que, bon, il y a d'abord eu un comité scientifique qui s'est réuni pour essayer de définir de la façon la plus précise possible et la plus juste possible ce à quoi ressemblait la galerie et quelles techniques de restauration on devait utiliser. Et ensuite, les meilleurs experts mondiaux de tous les corps de métier se sont attachés à restaurer centimètre par centimètre les détails de cette galerie et à les réveiller. Et quand on s'y rend, on se rend compte que ce n'est pas seulement un ensemble, une perspective, des volumes, c'est un trésor, que c'est vraiment un des plus beaux trésors de l'histoire de France et peut-être même le trésor du génie français.
Alors, de nombreux arts sont concernés. Il y a la peinture, il y a la sculpture avec les marbres, les torchères au départ dont on ne prévoyait pas la restauration et qui finalement ont été elles-mêmes restaurées, les lustres et bien évidemment les miroirs. Il y a un article extraordinaire, vous présentez un artisan qui s'appelle Vincent Guerre qui a restauré ces 374 miroirs, c'est bien cela?
Voilà, c'est cela, et qui les a restaurés un à un, bon, aidé de son atelier. C'était la première fois que l'on retirait les miroirs de la galerie pour les restaurer puis pour ensuite les réinstaller. C'était un travail pour lui, à mon avis, vertigineux, qu'il a mené à bien, puisque maintenant, même si la galerie n'a pas été inaugurée, moi, j'ai assisté au jour où on a posé le dernier miroir restauré. Il a fait un travail qui, j'espère, va lui faire une réputation dans le monde entier, va faire en sorte qu'énormément de tout petits Versailles retrouvent leur beauté originelle. C'est aussi l'avantage et l'utilité de ces grandes opérations de restauration.
Il y a une technique spéciale, hein. C'est un miroir au mercure, et aujourd'hui, les miroirs au mercure n'existent plus.
Oui, enfin, les miroirs au mercure existent encore quand ils restent en place dans des lieux, des petits Versailles ou d'autres palais, mais ils ne sont plus fabriqués comme ils l'étaient à cause notamment d'un procédé de fabrication très toxique qui était dangereux pour les miroitiers. Et Vincent Guerre est le seul miroitier à restaurer ces miroirs de la façon la plus traditionnelle et la plus fidèle à ce qu'ils étaient. Donc effectivement, on peut espérer que cette restauration de la Galerie des Glaces le fasse connaître des propriétaires des rares miroirs au mercure qui existent encore et qui ont une teinte très particulière qu'on peut admirer aujourd'hui dans la galerie.
Les miroirs sont tous d'origine ?
Non, certains, je crois, étaient brisés et ont été remplacés.
Remplacés, oui.
Au cours de l'histoire, notamment de la
l'histoire,
Révolution.
Voilà. Et
l'histoire de cette restauration et cette restauration a permis de voir aussi l'histoire des différentes restaurations de la galerie, en ce qui concerne les miroirs qu'on a dû remplacer, en ce qui concerne les repeints sur la voûte, en ce qui concerne les marbres, etc. Quand on parle avec les différents restaurateurs qui ont travaillé sur la galerie, ils ont découvert le roman aussi des différentes restaurations de cette galerie qui, dès sa réalisation, exigeait déjà un entretien compliqué, quoi.
Alors venons-en à une partie très importante de la restauration. Il s'agit de la peinture de cette fresque de Lebrun. Que raconte cette fresque ? Que raconte la Galerie des Glaces ?
Alors, cette fresque de Lebrun va être une des grandes découvertes et on va peut-être enfin réaliser que la peinture française compte avec Lebrun, un des plus grands génies de l'histoire de l'art. Cette fresque devait au départ raconter les travaux d'Hercule, l'épopée d'Alexandre, puis pour raconter Louis XIV, on a choisi finalement de raconter Louis XIV. Il n'y avait plus besoin d'allégorie, il suffisait de mettre le roi en scène. Donc, sur toute la galerie, par un jeu de grande toile et de trompe-l'œil, Lebrun amène le visiteur du début de la guerre de Hollande jusqu'à la paix de Nimègue. Et on peut voir sur la voûte chacun de ces épisodes de l'histoire de France avec à chaque fois le roi qui s'affirme soit gouvernant par lui-même, soit en train d'armer les terres et les mers, soit en train d'envahir la Franche-Comté, qui affirme son pouvoir et qui montre au monde entier qui viendra ensuite dans cette galerie et qui ira encore le 25 au soir assister, 25 juin 2007, assister à cette inauguration, le génie propre de Louis XIV, le roi qui gouverne par lui-même au cœur même de cette galerie.
Le roi est représenté cette fois réellement.
Voilà.
Il n'est pas représenté par allégorie.
Non.
Et je crois même qu'on peut dire que ce qui est très étonnant, c'est que quand on entend ce programme iconographique, on peut penser que s'il s'agit d'une peinture officielle, donc avec la raideur que ça peut comporter. Et en fait, quand on voit les tableaux les uns à côté des autres et dans toute leur diversité, on voit que la vie éclate partout et que même quand Lebrun recourt à des représentations allégoriques, comme je pense à la ville de Gand qui remet ses clés, il la représente sous les traits d'une jeune femme blonde qui est effondrée de devoir donner les clés au vainqueur. Et il y a plein de petits détails comme ça qui sont très vivants et qui font totalement volé en éclats les préjugés qu'on peut avoir sur la peinture officielle, la voilà. Peinture de cour.
Alors justement, le Fior hors série offre la possibilité, avec sa caméra, avec ses photos, de donner tous ces petits détails grâce à une série thématique.
Exactement. Donc nous avons ce CD-ROM qui permet de voir les détails de la voûte un à un, mais nous avons voulu ajouter dans le numéro aussi un dépliant dans lequel on montre d'abord toutes les pièces du puzzle de la galerie, tout ce qui la compose, et ensuite on montre l'intégralité. Je crois que ça s'est indiqué parce que c'est assez exceptionnel, dans une très belle définition avec, on espère, mais on a travaillé vraiment à être le plus proche possible des bleus, des rouges, des ors de la voûte de Lebrun, l'intégralité de la voûte de Lebrun avec un commentaire qui permet donc au lecteur de suivre pas à pas l'épopée de Louis XIV.
Il y a des expressions humaines, des animaux ?
Il y a un bestiaire, il y a des femmes, il y a des expressions humaines, il y a des mouvements qui sont baroquisants, il y a des bleus lapis-lazuli que l'on ne pouvait pas imaginer il y a 10 ans quand on voyait la galerie, qui sont absolument éblouissants. Il y a là un concentré du génie de Lebrun qui fait que la France a sa Sixtine avec cette voûte, quoi.
Ce qui est amusant, c'est qu'il y avait une rivalité certaine entre Lebrun et Ardoin Mansart, qui était l'architecte en chef du roi. Et on dit qu'Ardoin Mansart a conçu la galerie pour faire en sorte de laisser le moins de place possible à Lebrun, qu'il l'a relégué à la voûte en se disant bah, « comme ça, voilà, je vais moi pouvoir faire éclater mon génie décoratif ». Mais quand on voit la voûte, on se dit que finalement c'est peut-être un heureux pari pour Lebrun et qu'en croyant lui faire un mauvais coup, finalement Ardoin Mansart lui a peut-être permis de faire éclater son génie de manière totalement, enfin très resserrée, mais du coup très éclatante.
Lebrun atteint son apogée par ce plafond décoré ?
À l'époque, oui. Et puis, alors ensuite, là, ça exigerait de faire de la critique d'art. Est-ce que c'est supérieur à ce qu'on peut voir au Louvre, à Sceaux ? Moi, il me semble que peut-être par l'attrait de la nouveauté qui vient de cette restauration, que oui, là, on a le chef-d'œuvre de Lebrun sous les yeux. En tout cas, quand les auditeurs iront voir la Galerie des Glaces, qu'ils prennent le temps de regarder les détails un à un, parce que c'est absolument extraordinaire.
Alors, vous parliez d'Ardoin Mansart tout à l'heure. Quelle place a Ardoin Mansart ? Parce qu'on parle de peinture, mais il s'agit également de sculpture, d'architecture.
Oui, mais Ardoin Mansart, en fait, a conçu la galerie qui se trouve à un endroit où il y avait avant une terrasse à l'italienne. C'est-à-dire qu'on pouvait sortir, en fait, entre exactement à la place de la galerie. Il y avait une terrasse qui donnait sur les jardins. Et Ardoin Mansart a proposé au roi de relier ce qui est maintenant le Salon de la Paix et le Salon de la Guerre par une grande galerie qui serait une galerie d'apparat et qui pourrait aider à mettre en scène de façon encore plus éclatante son pouvoir de monarque absolu. Et d'ailleurs, Louis XIV s'en servira abondamment. D'un point de vue utilitaire, chaque jour, il traversera la galerie, mais aussi il organisera des réceptions exceptionnelles que l'on raconte dans certaines des journées, notamment l'ambassade du Siam. Il y aura des balles, des choses comme ça. Et donc Ardoin Mansart propose cette galerie au roi et le roi en est enchanté. Et donc c'est lui en fait qui va concevoir tout ce qui est décoratif. Les miroirs, les lustres.
Les arcades.
Les arcades, les corniches, les figures en stuc. Voilà, c'est donc un travail énorme.
Et avec un sens des volumes et de l'équilibre qui atteint la perfection. Ce qui est amusant entre Mansart et Lebrun, c'est justement cette rivalité. C'est-à-dire que quand Mansart arrive, Lebrun est déjà installé. Et Jules Ardoin Mansart a le génie architectural et il a en plus le génie, alors si on en croit Saint-Simon, le génie de Versailles et donc de l'intrigue à Versailles, d'être près du roi et d'être écouté du roi. Et donc, il parvient très très vite à rivaliser avec les décorateurs, les artistes qui étaient proches de Louis XIV. On raconte aussi ça dans le numéro parce que c'est intéressant de voir aussi toute la patte humaine et la vitalité de cette époque où un certain nombre de caractéristiques de l'âme humaine existaient déjà, mais elles étaient sublimées par le génie de tous ces personnages.
Il y a notamment une petite anecdote perfide que racontent les détracteurs d'Ardoin Mansart, qui est qu'il montrait ses plans à Louis XIV, qui s'intéressait beaucoup à l'évolution des travaux, mètre par mètre quasiment. Et ses détracteurs disent qu'il faisait exprès de lui montrer des plans absolument mal faits pour que le roi lui dise « Ah, mais là, vous pourriez faire plutôt comme ça. » Et qu'il dise « Ah, ma majesté, je n'y aurais jamais pensé, vous êtes un génie, etc. » Et donc, voilà, c'est une des petites anecdotes qui met un peu de piment à toute cette histoire et qui nous fait imaginer que ça n'a pas été sans rebondissement.
Comme quoi, les oppositions peuvent accoucher des meilleures œuvres. Ouais. Merci beaucoup, Isabelle et Vincent. Donc, je renvoie nos auditeurs au hors-série du Figaro. Versailles retrouvé, la renaissance de la Galerie des Glaces, disponible dans tous les kiosques, donc avec en plus un CD permettant de visualiser chez soi cette galerie. Merci beaucoup et à très bientôt pour un autre numéro du Figaro hors-série.